Yep, already.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Encore Heureux. Louis-Ferdinand des Touches, dit Céline, est né le 27 mai 1894 à Courbevoie, dans une famille de la petite bourgeoisie. Auguste des Touches, son père, est gratte-papier dans une compagnie d'assurance. Sa mère, Marguerite Guillou, est commerçante. Toute son enfance, Louis des Touches baignera dans une ambiance ultranationaliste et antisémite. Sa jeunesse est sans histoire. C'est un enfant aimé, choyé par ses parents. Seul souvenir douloureux, la mort en 1904 de sa grand-mère, Céline Guillou. Quelques décennies plus tard, au moment de publier « Voyage au bout de la nuit », Louis des Touches prendra pour pseudonyme le prénom de cette grand-mère. Il deviendra Céline. En 1911, Louis des Touches s'engage dans l'armée. C'est pendant cette période qu'il commence à écrire. En juillet 1914, la guerre éclate. Le jeune Parisien découvre la violence, la mort et la triste réalité des combats. Il est blessé au bras et déclaré invalide. Rendu à la vie civile, il s'embarque pour le Cameroun. Pendant un an, il est chargé de faire du commerce avec les autochtones. Mais l'expérience ne dure pas. Le jeune homme est rapatrié en France pour des raisons sanitaires. De retour à Paris, Louis des Touches s'occupe avec de petits boulots. Au détour d'une annonce, il découvre que la Fondation Rockefeller cherche des conférenciers pour sensibiliser la population bretonne à la tuberculose. Plutôt bel homme et beau parleur, il est embauché. À Rennes, il séduit la fille d'un médecin influent. Ce dernier consent à lui donner la main de sa fille à condition qu'il ait une situation stable et avantageuse. Louis des Touches se lance alors dans des études de médecine. Il se marie. Une fille naît, Colette des Touches. Ses études terminées, le docteur des Touches, future Céline, soutient une thèse qui laisse entrevoir un remarquable talent littéraire. Il accepte un poste au service hygiène de la SDN, la Société des Nations. Il s'installe à Genève, sans femme ni enfant. Le docteur des Touches n'est pas fait pour les conventions, ni pour la vie de famille. Le divorce est inévitable. À Genève, il mène grand train. Il s'endette, multiplie les aventures. Et sa liaison avec Elizabeth Gregg, une très jeune et très belle américaine, passe plutôt mal. Il écrit une pièce de théâtre satirique qui annonce Voyage au bout de la nuit. On y découvre Ferdinand Bardamu, son alter ego littéraire, Molly, l'arrivée à New York, mais aussi des réflexions antisémites et racistes. En 1927, le contrat du jeune médecin n'est pas renouvelé. Il quitte Genève avec sa maîtresse pour s'installer à Clichy. Il ouvre un cabinet de médecine privé, mais sans grand succès. La clientèle le boude. Finalement, c'est au dispensaire de Clichy qu'il trouve un emploi stable. Il peut enfin se consacrer à sa passion, l'écriture. En 1932, il envoie le manuscrit de Voyage au bout de la nuit aux éditions de Noël et aux éditions Gallimard. Le premier est enthousiaste, le second hésite. Céline signera finalement avec Robert de Noël. Ce dernier publie rapidement le texte en vue d'obtenir le prix Goncourt. Mais c'est le roman de Guy Mazeline, Les loups, qui raflera la mise. Le scandale est énorme. Les journalistes accusent le jury Goncourt d'être corrompu par Hachette, le distributeur de Gallimard. La polémique, en tout cas, sera très efficace. Voyage au bout de la nuit s'écoulera à près de 100 000 exemplaires et en quelques mois, Céline deviendra la coqueluche du tout Paris littéraire.
Radio B, Radio B.
Extrait de Voyage au bout de la nuit. L'arrivée à New York. Pour une surprise, c'en fut une. À travers la brume, c'était tellement étonnant ce qu'on découvrait soudain que nous nous refusâmes d'abord à y croire. Et puis tout de même, quand nous fûmes en plein devant les choses, tout galérien qu'on était, on s'est mis à bien rigoler en voyant ça, droit devant nous. Figurez-vous qu'elle était debout, leur ville, absolument droite. New York, c'est une ville debout. On en avait déjà vu, nous, des villes, bien sûr, et des belles encore. Et des ports, et des fameux même. Mais chez nous, n'est-ce pas, elles sont couchées, les villes, au bord de la mer ou sur les fleuves. Elles s'allongent sur le paysage, elles attendent le voyageur, tandis que celle-là, l'américaine, elle ne se pâmait pas, non. Elle se tenait bien raide là, pas baisante du tout, raide à faire peur. On en a donc rigolé comme des cornichons. Ça fait drôle, forcément, une ville bâtie en raideur. Mais on en pouvait rigoler, nous, du spectacle qu'à partir du coup, à cause du froid qui venait du large pendant ce temps-là, à travers une grosse brume grise et rose. Et rapide, et piquante, à l'assaut de nos pantalons et des crevasses de cette muraille, les rues de la ville, où les nuages s'engouffraient aussi à la charge du vent. Notre galère tenait son mince sillon juste au ras des jetées, là, où venait finir une eau caca, toute barbotante d'une kyrielle de petits bachots et remorqueurs avides et connards. Pour un miteux, il n'est jamais bien commode de débarquer de nulle part. Mais pour un galérien, c'est encore bien pire. Surtout que les gens d'Amérique n'aiment pas du tout les galériens qui viennent d'Europe. C'est tous des anarchistes qu'ils disent. Ils ne veulent recevoir chez eux, en somme, que les curieux qui leur apportent du pognon, parce que tous les argents d'Europe, c'est des fils à dollars. J'aurais peut-être pu essayer, comme d'autres l'avaient déjà réussi, de traverser le port à la nage et de me mettre à crier « Vive de l'art! Vive de l'art !» C'est un truc. Il y a bien des gens qui sont débarqués de cette façon-là et qui, après ça, ont fait des fortunes. C'est pas sûr, ça se raconte seulement. Il en arrive dans les rêves des bien pires encore. Moi, j'avais une autre combinaison en tête, en même temps que la fièvre.
Radio B.
Ce qui fait courir les hommes, l'argent bien sûr, mais aussi l'amour, cet infini mis à la portée des caniches. Deuxième extrait de Voyage au bout de la nuit. Bardamu, qu'il me fait alors gravement et un peu triste, nos pères nous valaient bien, n'en dis pas de mal. T'as raison, Arthur. Pour ça, t'as raison. Haineux et docile, violé, volé, étripé et couillon toujours, ils nous valaient bien. Tu peux le dire, nous ne changeons pas. Ni de chaussettes, ni de maîtres, ni d'opinions, ou bien si tard que ça n'en vaut plus la peine. On est nés fidèles, on en crève, nous autres. Soldats gratuits, héros pour tout le monde et singes parlants, mots qui souffrent, on est nous les mignons du roi misère. C'est lui qui nous possède. Quand on est pas sage, il serre, on a ses doigts autour du cou, toujours, ça gêne pour parler. Faut faire bien attention si on tient à pouvoir manger. Pour des riens, il vous étrangle. C'est pas une vie. Il y a l'amour, Bardamu. Arthur, l'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches. Et j'ai ma dignité, moi, que je lui réponds. Encore heureux. Portrait d'écrivain par Gaël Heureux sur Radio B. Voyage au bout de la nuit dénonce l'absurdité de la guerre, la bêtise du colonialisme, la misère, la pitoyable solitude des hommes. Mais c'est aussi un livre qui révolutionne la littérature, par son style parlé, cru, violent, argotique. La première phrase, en 5 mots, donne le ton. Ça a débuté comme ça. Simone de Beauvoir écrira à propos du voyage « Nous lisions ce qui paraissait. Le livre qui compta le plus pour nous cette année-là, ce fut « Voyage au bout de la nuit » de Céline. » Son anarchisme nous semblait proche du nôtre. Il s'attaquait à la guerre, au colonialisme, à la médiocrité des lieux communs, à la société, dans un style, un ton qui nous enchantait. Céline avait forgé un instrument nouveau, une écriture aussi vivante que la parole. Quelle détente, après les phrases marmoréennes de Gide, d'Alain, de Valéry. Sartre en prit de la graine. Il abandonna définitivement le langage gourmet dont il avait encore usé dans la légende de la vérité. Céline, c'est donc un style et un défi. Réussir à coucher l'émotion du langage parlé sur la feuille de papier. Réussir à communiquer l'émotion de l'oral à travers l'écrit. Car pour lui, seul le style a de l'importance. Pas l'histoire, pas les idées. Les idées. Rien n'est plus vulgaire. Les encyclopédies en sont pleines. Et justement, il y en a 40 volumes là. Énormes, voyez. Remplis d'idées.
Mais vous ne cherchez pas à communiquer des idées, à les exprimer?
Oh, les idées, monsieur, il y en a plein. Mon encyclopédie, là, c'est gros. Oh, il y a des belles idées, des bonnes idées. Et Dieu sait s'il y en a. Et très bonne, très logique, bien meilleure que celle que je vois exprimée dans tous les journaux à idées. Oh, bien mieux, bien plus clair, bien plus net et bien plus fantaisiste, bien plus drôle.
Des vous chassez l'idée en littérature?
Absolument.
Vous n'en voulez pas?
À littérature. À ma littérature, moi, je ne demande pas aux autres de s'en servir s'ils veulent, s'ils ont un public, mais mon Dieu, pourquoi pas. Mais en tout cas, mon Dieu, s'ils veulent voir des aventures, mais il y en a plein la correctionnelle dans chaque salle d'hôpital, partout, n'est-ce pas?
Vous savez, quand on vous lit, Céline, nous avons l'impression que vous composez vos livres d'une façon très directe, très coulante, que ce fameux style parlé qui est votre caractéristique est né d'une sorte d'improvisation constante. Est-ce que c'est vrai?
Oh non, monsieur, pas du tout. En réalité, je travaille avec beaucoup de labeur, j'ose dire. Il y a l'éloquence naturelle, mais ça, évidemment, c'est une base. Mais enfin, la feuille de papier ne retient pas l'éloquence naturelle. On connaît la pauvreté de ce que donnent les discours à la chambre ou les plaidoiries quand elles sont transcrites en sténo, n'est-ce pas? Non, et dans le peuple, l'envoi du van, n'est-ce pas? Ça fait une petite phrase drôle et puis c'est tout. Mais tenir un effort de stylisation de 500, 400, 500 pages demande énormément d'efforts, à savoir qu'il faut complètement revoir et revoir. Pour dire la vérité, ça fait 400 pages imprimées font 80 000 pages à la main. Le lecteur n'est pas forcé de le savoir, il ne doit même pas le savoir. C'est affaire de l'auteur à effacer le travail. Vous mettez le lecteur dans un paquebot, et tout doit être délicieux, n'est-ce pas? Ce qui se passe dans les soutes, ça ne le regarde pas. Et ce qui se passe sur la passerelle, ça ne le regarde pas. Il doit jouir des paysages, de la mer, du cocktail, de la valse, de la fraîcheur des vents, et tout ce qui est mécanique, ou servitude, ou service, ne le regarde pas du tout.
En 1933, la maîtresse, la muse, Elisabeth Craig, quitte l'écrivain. Céline vivra alors d'amourette jusqu'à sa rencontre avec Lucette Almanzor en 1936, Lucette qui deviendra sa femme. En 1936, c'est aussi la publication de Mort à crédit, le deuxième roman de Céline. Dans ce chef-d'œuvre nourri des souvenirs de son adolescence, Céline présente une vision chaotique et anti-héroïque, à la fois burlesque et tragique de la condition humaine. La crudité des situations et la violence du langage déchaînent les critiques. L'opinion publique considère l'auteur comme un écrivain pornographe. Le livre est un échec. Fin 1937 sort un pamphlet antisémite redoutable, Bagatelle pour un massacre. Le langage y est cru, comme toujours, parfois obscène. Le style est fait de phrases courtes, se terminant par des points de suspension ou un point d'exclamation. Les chapitres se résume parfois à une phrase. Mais le succès est au rendez-vous. Le Brûlot s'écoule à 75 000 exemplaires. Le Juif y est partout. Il est l'ennemi, omniprésent. Céline, qui est alors employée au dispensaire de Clichy, une municipalité communiste, devient indésirable. Il doit démissionner. À propos de Bagatelle pour un massacre, Georges Bernanos écrira « Cette fois-ci, Céline s'est trompée d'urinoir. » Un an plus tard, en 1938, dans un pamphlet intitulé « L'école des cadavres », Céline récidive. Il écrit « Les Juifs, racialement, sont des monstres, des hybrides, des loupés, tiraillés, qui doivent disparaître. Dans l'élevage humain, ce ne sont, tout bluff à part, que bâtards gangréneux, ravageurs, pourrisseurs. Le Juif n'a jamais été persécuté par les Aryens. Il s'est persécuté lui-même. Il est le damné des tiraillements de sa viande d'hybride. » En mai 1940, l'armée française est écrasée par l'armée allemande. Céline sera le témoin de ce drame. Employé au dispensaire de Sartrouville, épaulé par Lucette, promue infirmière, il évacue les malades loin des combats. Plus anecdotique, c'est à partir de ces années-là qu'il apparaît dans des tenues de plus en plus négligées. Cette clochardisation ira crescendo jusqu'à Meudon, où il offrira le spectacle de sa déchéance physique. Dès juillet 1940, il s'attelle à la rédaction des Beaux Draps, son dernier pamphlet antisémite, qui sera publié début 1941. Il est interdit de vente en zone libre. Cette déconvenue sera sans grande conséquence pour Céline. Protégé par ses relations, il continuera à vivre et à écrire comme bon lui semble. Dès l'annonce du débarquement, en juin 1944, Céline préfère prendre les devants. Il sait ce qu'il risque. Il part pour l'Allemagne, accompagné de sa femme Lucette et de son chat Bébert. Il rejoint ensuite le Danemark, où il a caché son or avant la guerre. Là-bas, il se fait très discret. En France, c'est l'épuration. Et Céline est recherchée pour être traduite devant la justice. Fin 1945, les autorités françaises le découvrent. Il est arrêté, jeté en prison et menacé d'extradition. Deux ans plus tard, en 1947, il est libéré, mais reste prisonnier sur parole et ne doit pas quitter le Danemark. Il s'installe avec Lucette à Korsør, un petit village à une centaine de kilomètres de Copenhague. En 1950, son procès par contumace s'ouvre à Paris. L'écrivain est condamné à un an de prison, à la confiscation de la moitié de ses biens et à l'indignité nationale. Mais son avocat se montre très efficace. Et Céline est finalement amnistiée, à la grande fureur d'une partie du gouvernement et de l'opinion publique. Nous sommes en 1951. Céline peut désormais rentrer en France. Il est libre et sa situation matérielle s'arrange. Il signe un contrat avec Gaston Gallimard. À partir de cette date, toute l'œuvre de Céline, à l'exception des pamphlets, sera rééditée chez le célèbre éditeur. Les Destouches achètent un pavillon à Meudon, en banlieue parisienne, et peuvent commencer à vivre normalement. Céline se remet à l'écriture, reprend son activité de médecin, tandis que sa femme donne des leçons de danse au premier étage de leur maison, où Céline n'est jamais montée. En 1952, Céline publie « Féerie pour une autre fois », un roman très curieux, sans début ni fin, et qui sera un retentissant échec commercial. Il abandonne alors le roman pour se faire chroniqueur en publiant « D'un château l'autre ». Le livre s'ouvre sur les descriptions d'un Céline aigri qui se plaint de sa condition. Sa vie de médecin boudée par la clientèle, les traîtrises des divers éditeurs, ses haines à l'égard de ceux qui représentent l'intelligentsia de l'époque, dont Jean-Paul Sartre, qu'il surnomme « Tartre ». Dans une seconde partie, Céline décrit la vie en exil du gouvernement de Vichy à Sigmaringen, dans le sud de l'Allemagne, les péripéties de la France collaboratrice. Tout y est parfaitement ridicule. La promenade journalière du maréchal Pétain, la rigidité des Allemands, les orgies entre militaires, jeunes filles en fleurs et réfugiés, la misère humaine, due à l'absence de services sanitaires et à la restriction des médicaments. En 1960, Céline publie « Nord », qui raconte sa fuite à travers un Troisième Reich décadent. La critique est enthousiaste. Elle salue un très grand roman et le retour de Céline au sommet de la littérature. Mais la santé de l'écrivain se dégrade. Malgré tout, Céline ne se ménage pas. Il travaille d'arrache-pied pour terminer sa trilogie allemande. Le 30 juin 1961, Céline annonce à son éditeur, Gaston Gallimard, que le manuscrit de Rigaudon est achevé. Il meurt, le lendemain, d'une rupture d'anévrisme.
Si vous deviez mourir à l'instant, ce qu'à Dieu ne plaise, quelle serait votre dernière pensée?
Oh ben, au revoir et merci. Et ça suffit, oui. Oh, doucement, je ne vous veux aucun mal, mais mon Dieu, vous vous occupez bien de vous-même. Ça va, je m'en suis trop occupé. J'ai manqué l'égoïsme, c'est assez rare, parce que le monde en est plein.
et tandis que Louis-Ferdinand Céline retourne à sa solitude pleine de fureur et de vision, juste au-dessus de sa tête, au premier étage, où il n'est jamais monté, toute la journée, les élèves de Lucette Almanzor dansent.
Un grand merci à Pauline à la réalisation. Prochaine émission de Encore heureux le mercredi 13 juin, je vous parlerai d'un charmant petit monstre, l'auteur de Bonjour Tristesse, Françoise Sagan. À très bientôt sur Radio B.